Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de l'actualité politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Antoine Bristiel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez l'Observatoire de l'opinion à la Fondation Jean Jaurès. Alors nous parlons 5 millions de vues, 5 millions en quelques heures seulement, vidéo de McFly et Carlito, deux humoristes célèbres sur YouTube. Ils ont diffusé aujourd'hui cette vidéo tournée à l'Élysée avec Emmanuel Macron, dans laquelle le président de la République se livre à un de leurs concours d'anecdotes. Le président de la République avait promis en février d'ouvrir les portes de l'Élysée aux deux YouTubers s'ils réunissaient plus de 10 millions de vues pour une vidéo rappelant les gestes barrières contre le Covid. Paris tenu.
Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Élysée.
On arrive, monsieur le président.
Vous l'avez attendu, on l'a obtenu.
Et donc ce défi est rempli, nous voici pour un concours d'anecdotes.
Si c'est moi qui gagne, le 14 juillet, vous montez dans un des avions de la patrouille de France pour survoler.
C'est malheureusement une bonne idée.
On prend des jets, c'est un peu haut.
C'était le début de cette vidéo d'une durée de 36 minutes. Alors, Antoine Bristiel, opération de séduction à destination des jeunes. D'ailleurs, sait-on ce qu'il pense du président de la République ?
Quand on regarde les intentions de vote pour la prochaine présidentielle, en tout cas, on voit que la première intention de vote qui est déclarée à l'heure actuelle, c'est pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron, il arrive seulement en second. Et c'est certainement pour cela qu'il y a justement une volonté de reconquérir finalement cet électorat des jeunes et de pouvoir un petit peu changer son image, d'apparaître comme un président qui est plus proche. Parce qu'on voit que c'est une des problématiques qui se posent par rapport à Emmanuel Macron. On lui reproche pas du tout d'être un président qui a la stature présidentielle. On lui reproche au contraire de pas être suffisamment proche de la population. Et ce qu'il essaye de faire avec cette stratégie de communication, c'est justement d'apparaître plus proche des citoyens.
Pourtant, d'après le baromètre mensuel IFOP que publie aujourd'hui le journal du dimanche, la cote de popularité d'Emmanuel Macron atteint 51% chez les 18-24 ans, en hausse de 8 points en seulement un mois.
Alors, ce qui est sûr, c'est que sa cote de popularité a profondément bénéficié de l'effet des réouvertures, du déconfinement et notamment de la réouverture des terrasses pour les jeunes. C'est ça qui explique ce bond de 8 points, comme vous le dites, depuis un mois.
Plus largement, 40% de la population française est satisfaite de l'action du chef de l'État. Là aussi, c'est un effet déconfinement ?
On voit généralement que dans les périodes de crise, que ce soit les crises sanitaires, mais aussi les crises économiques, ou même les crises terroristes, on a tendance à voir ce phénomène de ralliement sous le drapeau. C'est-à-dire que le taux de confiance dans les représentants politiques de premier plan, il a tendance à être plus important que ce qu'il est dans les périodes ordinaires. On voit qu'en France, on a eu cet effet-là, léger finalement par rapport aux autres pays. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec 40% d'intention, enfin en tout cas d'opinion positive, Emmanuel Macron est plutôt dans une bonne situation pour la perspective de la prochaine présidentielle, si l'on compare avec la situation de François Hollande il y a 5 ans ou celle de Nicolas Sarkozy il y a 10 ans.
40% selon le baromètre IFOP, en hausse de 3 points. Antoine Bristiel, dans Dimanche Politique. Une des images politiques fortes de la semaine, c'est le ministre de l'Intérieur devant l'Assemblée nationale en train de participer à la manifestation de policiers en colère, deux semaines après la mort d'un de leurs collègues lors d'une opération anti-drogue tuée par un dealer. Sa présence a suscité des commentaires et Gérald Darmanin avait donc expliqué pourquoi il était là.
Je suis simplement venu soutenir les policiers, c'est tout à fait normal, ils vivent un moment difficile, ils sont endeuillés et il n'y a rien de plus normal que de soutenir les policiers dans une république.
Une critique de la socialiste Audrey Pulvar qui se présente aux élections régionales en Île-de-France.
C'est une image qui pour moi était assez glaçante. Oui, la colère des policiers est légitime, mais qu'elle s'exprime de cette façon devant la représentation nationale avec un ministre de l'Intérieur qui, justement, est censé protéger ceux-là même et celles-là même avec lesquelles il manifeste pour faire pression sur son collègue de la justice. Très sincèrement, je trouve ça extrêmement inquiétant.
Oui, car depuis la manifestation, le ministre de l'Intérieur a dit ceci. Le problème de la police, c'est la faiblesse des moyens de la justice. Le commentaire de Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France.
Le laxisme judiciaire est impressionnant. C'est pas que la faute des juges, attention. C'est la faute de lois laxistes. Vous vous en tirez en agressant des policiers avec un an avec sursis. C'est un scandale et nous sommes le seul pays au monde où les policiers, vous pouvez les agresser, les insulter, les violenter. Vous n'avez pas de peine exemplaire.
Également sur France 3 à la mi-journée, le porte-parole du Parti communiste, sachant que le candidat du PCF participait à cette manifestation policière en milieu de semaine.
Fabien Roussel était effectivement présent à cette manifestation parce que c'est un devoir moral d'être aux côtés de nos forces de l'ordre. Je pense que le problème, ça n'est pas d'abord que notre justice est laxiste. Le problème, c'est que notre justice, elle est effroyablement lente. Elle est lente parce que, comme la police d'ailleurs, elle manque cruellement de moyens. En France, nous avons 10 juges pour 100 000 habitants. En Allemagne, on a 25 juges pour 100 000 habitants. Donc, le problème, c'est le recul de l'État. Le problème, c'est que dans tous les domaines, du fait des politiques libérales, on a réduit la place de l'État.
Aujourd'hui, dans un entretien au Journal du Dimanche, le ministre de la Justice défend l'institution judiciaire, accusé donc de laxisme par certains syndicats de policiers et élus. Éric Dupond-Moretti dit que la police sans justice, c'est le totalitarisme. Alors Antoine Bristiel de la Fondation Jean Jaurès, le problème de la police et la justice, a déclaré le secrétaire général du syndicat de la police Alliance lors du rassemblement devant l'Assemblée nationale. Flics et juges ont finalement toujours été des frères ennemis. C'est régulièrement qu'on entend des critiques de la police à l'endroit de la justice.
Oui, c'est vrai que les bisbilles entre l'institution policière et l'institution judiciaire, c'est pas forcément quelque chose de neuf. Ce qui est plus neuf, en l'occurrence, c'est la politisation qu'il peut y avoir de cette question, et notamment la politisation de cette question à gauche. Quand on voit, par exemple, au sein du Parti Socialiste, les réactions qu'il peut y avoir, autant notamment chez Olivier Faure, qui explique que le Parti Socialiste doit se ressaisir de la question de la sécurité, notamment le fait également de pouvoir avoir un droit de regard des policiers sur les décisions de justice. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, et ça montre bien que cette question de sécuritaire, qui sont largement mises sur le devant de la scène aujourd'hui, parce qu'il y a une multiplication des faits divers, parce qu'il y a une forte médiatisation également de ces faits divers, ben ça entraîne que cet enjeu sécuritaire, il est extrêmement préoccupant pour les Français, et tous les partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite finalement, se sentent obligés de réagir sur cette question-là, et en l'occurrence de réagir notamment à la façon dont la thématique va être cadrée par les policiers, c'est-à-dire d'une opposition entre la police et la justice.
Et cela, à un an de l'élection présidentielle, ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard.
Non, effectivement, on peut percevoir quand même qu'il y a certaines similarités entre les thématiques qui sont mises sur le devant de la scène à l'heure actuelle et celles qui étaient mises sur le devant de la scène en 2007, avec une élection qui avait été extrêmement justement basée sur les questions sécuritaires. On ne sait pas quelles seront les thématiques qui seront celles qui seront au centre du débat public l'année prochaine.
La sécurité, très vraisemblablement.
En tout cas, si ça continue sur la dynamique actuelle, ce sont les questions sécuritaires, ce sont les enjeux culturels qui seront davantage mis sur le devant de la scène plutôt que les questions économiques.
Autre chose, la lutte contre le coronavirus. Ce sont 16,5 millions de Français qui ont téléchargé tous anti-Covid. Annonce faite aujourd'hui par le secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric O, concernant donc cette application qui permettra de disposer d'un pass sanitaire afin d'accéder à partir du 9 juin aux lieux regroupant plus de 1000 personnes. L'utilisateur de cette appli permet de mentionner que l'on a effectué un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, qu'on a été vacciné ou qu'on a été malade ou immunisé. Et mardi prochain, les députés examineront cette mesure. Le communiste Yann Brossa sur la position de son parti.
On pourrait concevoir un pass sanitaire à une condition. C'est que tous ceux qui souhaitent se faire vacciner aient pu se faire vacciner. Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à vacciner? Pourquoi est-ce qu'on commence la vaccination des enseignants uniquement la semaine prochaine? Vous vous rendez compte que les enseignants seront immunisés quand ils seront en vacances, c'est-à-dire quand ils ne seront plus en contact avec les élèves. Donc, je n'ai pas d'hostilité de principe au pass vaccinal.
Mais que feront les députés communistes?
Donc, je pense que poser cette question maintenant, c'est totalement prématuré et je ne vois pas comment ils pourront voter pour par conséquent.
Donc, ils voteront contre.
Absolument.
À l'autre bout de l'échiquier politique, Nicolas Dupont-Aignan est lui aussi contre.
Ce pass sanitaire, soit il sera inefficace, soit ce sera une usine à gaz complètement liberticide et qui mettra en place une discrimination sans précédent. Oui. C'est que pour qu'il soit efficace, il faut bien comprendre, il faudrait qu'on ne dise pas simplement que vous avez été vacciné, parce que vous ne savez pas combien de temps dure la protection, quel variant. On est en train de tracer, de numériser tout individu français et de suspendre sa liberté de circulation à des informations. Donc, je voterai totalement contre et je veux insister sur la gravité de ce système.
Antoine Bristiel, la question du respect des libertés individuelles va donc à nouveau se poser et être débattue. C'était l'appli et puis demain c'est le pass sanitaire.
Oui, ce qu'on remarque au sein de l'opinion publique, c'est que dans un récent sondage qui a été fait par Odoxa la semaine dernière, il y avait 6 Français sur 10 qui se déclaraient favorables à l'introduction du pass sanitaire. En fait, ce que l'on voit, c'est que on a une perspective qui est donnée avec le pass sanitaire, c'est-à-dire que les Français perçoivent qu'il y a des contreparties. Contrairement, par exemple, au premier temps, avec de la vaccination, on disait aux Français « allez vous faire vacciner » sans qu'ils voient directement quels allaient être les avantages immédiats. Là, les Français se rendent compte qu'il va y avoir ce pass sanitaire, c'est peut-être quelque chose de contraignant. Effectivement, il y a des questions de liberté qui se posent, mais derrière, ça offre des perspectives, que ce soit en termes de mobilité, que ce soit en termes de retrouver une vie culturelle, etc. Donc, le fait d'avoir finalement un peu cette carotte, c'est quelque chose qui va avoir tendance à pousser l'opinion publique à être favorable à une telle mesure.
Plus largement, vous constatez dans l'opinion, Antoine Bristiel, une acceptation de la vaccination. Il y avait eu des réticences, c'est désormais derrière nous.
Oui, en fait, on voyait dans un premier temps qu'il y avait une majorité des Français qui disaient réticents à la vaccination. Or, ils ont souvent été caractérisés comme étant des affreux complotistes qui étaient anti-vaccins, qui refuseraient de se faire vacciner parce qu'ils étaient contre, alors qu'au final, ça traduisait finalement juste une incertitude, une peur par rapport aux effets secondaires. Et puis, comme on le disait juste avant aussi, le fait de ne pas avoir forcément suffisamment de perspectives, des bénéfices de se faire vacciner individuellement, mais aussi collectivement, socialement, le fait de retrouver une vie plutôt normale. Et désormais, vu qu'on a plus de recul sur les potentiels effets secondaires, vu qu'on a également davantage de perspectives sur quels sont les avantages sociaux de se faire vacciner, on voit que le pourcentage de personnes qui acceptent de se faire vacciner augmente très fortement pour atteindre maintenant 8 Français sur 10.
Et l'on retrouve toutes ces considérations sur l'opinion publique française dans votre livre, Antoine Bristiel. À qui se fier? De la crise de confiance institutionnelle à la crise sanitaire, c'est son titre, un ouvrage publié par les éditions de l'Aube. Merci d'avoir participé à Dimanche Politique ce soir sur RFI.